RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Zoran.
Bonjour Mathieu.
Et on se retrouve, Zoran, pour le deuxième épisode de cette sélection d'été que tu nous as concoctée. On rappelle un petit peu ta fonction, tu es sommelier ici. Hein.
Oui, sommelier au sein de la maison Rupert à Oberdonven. Voilà, depuis 6 ans maintenant.
Et c'est une maison où, qui n'est pas seulement dédiée aux professionnels, hein, elle est privée aussi. Hein,
tout à fait, oui, pour les clients privés, pour, dans le cadre de dégustations, de présentations. Je présente aussi des vins dans le cadre d'événements par rapport à des choix pour, voilà, pour le côté festif, par rapport à des demandes de clients.
Lors de la précédente édition de cette Route des Vins du Luxembourg, on avait décidé donc de présenter notamment une sélection de vins blancs, des vins blancs qui étaient aussi bien issus du Luxembourg que de France. On est même descendu jusqu'en Espagne. La part belle avait été effectivement aussi allouée au crémant luxembourgeois, qui est le produit de fête ici au Luxembourg durant la période estivale. Et donc cette période estivale, c'est également l'occasion de boire du rosé, ça on le sait, mais aussi du vin rouge, puisque le vin rouge n'est pas seulement dédié à l'automne-hiver, on va dire.
Tout à fait.
Hein. Donc on va commencer par une première bouteille, ah tiens, d'un domaine que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs qui a été, alors pas repris récemment, mais on va dire repris officiellement par la fille des propriétaires, hein, c'est ça, hein. On en parle.
C'est un domaine viticole que j'apprécie particulièrement, qui a été le pionnier dans le bio, hein, il faut le dire. Je pense dans les années 2000, il s'était consacré à une reconversion complète et, au niveau bio. Et voilà, c'est un magnifique domaine viticole. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous présenter un rosé issu de cépages Pinot Gris en majoritaire, assemblé avec de l'Auxerrois et Pinot Noir, leur fameuse cuvée Libellula.
De Zunen Hoffmann.
Tout à fait, Zunen Hoffmann, sur un millésime 2023. Alors, ce vin bio se distingue par sa fraîcheur, ses arômes fruités, marqués par des notes de petits fruits rouges, tels que fraises, framboises, ainsi que sur une petite pointe florale vraiment très très délicate qui me rappelle un peu des notes de pétales de rose. Ça reste vraiment un très 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 joli vin, très accessible pour marier sur des salades estivales, des petits plateaux de fruits de mer et pourquoi pas sur une petite grillade. Je recommande vivement, tout simplement.
Le contenu est toujours important, mais le contenant l'est aussi. On a affaire à une bouteille qui est vraiment très très élégante. Hein.
Tout à fait.
On se projette hein, sur une belle terrasse comme ça, estivale fleurie, avec la particularité de ne pas avoir mis de collerette. Alors j'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec certains vignerons qui me disent qu'ils essaient en fait de ne plus mettre de collerette pour des raisons écologiques,
environnementales,
tout exactement.
Oui.
Et là, enfin, ça choque pas du tout. Hein,
on a quand même un très joli bouchon, très élégant, avec une belle bouteille, comme tu l'as évoqué, Mathieu. Vraiment très 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 agréable visuellement, qui fait ressortir la robe de ce vin. Hein. C'est vraiment une belle robe rose saumon clair. Hein. C'est un vin qui donne envie hein, quand on le voit visuellement.
Il y a toujours cette idée qui est une fausse idée de penser qu'un vin qui est plus clair, on va parler du rosé, est un vin qui va être plus léger. Tu es là pour contredire un petit peu...
Disons que c'est une question de style et d'appréciation. Chaque personne c'est vrai que le visuel a un impact quand même sur le coup de cœur pour effectuer l'achat. C'est une tendance qu'on retrouve actuellement, mais pas que. Forcément, ça ne veut pas dire que forcément ce vin-ci ou avec une telle couleur sera peut-être meilleur qu'un autre vin.
En tout cas, techniquement, ce qu'on peut rappeler quand même aux auditeurs de la Route des Vins du Luxembourg, c'est que cette couleur en fait que l'on retrouve à l'arrivée sur le vin, elle n'est pas liée au grain de raisin, mais elle est plus liée à l'opération de macération en fait. Hein.
Oui, tout à fait. C'est un choix du vigneron. Hein. C'est un vin qui peut être macéré 12 heures, 24 heures ou 48 heures. Tout dépend des attentes et des envies du vigneron. Voilà.
On va passer à cette seconde bouteille qui est un Côte de Provence. Le Côte de Provence, c'est un incontournable sur les tables estivales.
Effectivement, alors c'est vraiment le vin que tout le monde connaît, que tout le monde a certainement déjà eu l'occasion de déguster. Alors là, aujourd'hui, je vais vous présenter un vin du domaine viticole Château Montaud, sur appellation Côte de Provence, sur un millésime 2023, assemblé avec du grenache en majoritaire. On y retrouve un peu de cinsault, un peu de syrah et un peu de tibourin, un cépage qui apporte ce côté vraiment aromatique, reconnaissable sur les vins issus de cette appellation. Bien sûr, un très joli visuel hein, sur un rose saumon clair qui donne envie de le déguster. On y retrouve notamment ces arômes de fruits exotiques qui rappellent un peu ce côté fruit de la passion, mais pas que. Belle note de cerise qui apporte cette gourmandise au niveau de la bouche et du nez aussi notamment, avec cette petite tendance d'agrumes qui me rappelle un peu des notes de zeste d'orange, qui porte un peu cette amertume, et bien sûr ces notes minérales portées par le terroir de schiste qu'on peut retrouver en Provence. On pourrait l'accompagner bien sûr avec des plats typiques méditerranéens, tels que par exemple un tian de légumes à la provençale, avec des courgettes, aubergines, tomates, herbes de Provence. Et voilà, ça reste vraiment un vin appétant, plaisant et qui est très intéressant à déguster en période estivale.
Très très intéressant comme description, mon cher Zoran, et on va rester dans le sud de la France pour la bouteille suivante, puisque là on prend la direction de Bandol. J'avais eu l'occasion de parler il y a quelques années avec un sommelier qui était très fan de cette région de Bandol, qui me décrivait comme les cépages de Bandol étant des cépages en souffrance, qui allaient vraiment puiser très profondément des forces pour produire un tel nectar. On peut parler de ce vin?
Bien sûr. Alors en l'occurrence ici présent, c'est le domaine viticole Bastide de la Ciselette, sur leur cuvée Lou Pigna, appellation Bandol, comme tu viens d'évoquer, sur un millésime 2023, qui a été primé récemment avec une belle médaille d'argent au concours agricole de Paris. C'est un vin issu de cépage Mourvèdre, en majoritaire, avec un peu de cinsault.
Ouais.
Et c'est vraiment un cépage qui, au niveau du nez, porte une certaine aromatique, beaucoup de gourmandises qui sont portées par ces notes fruitées de fruits rouges qu'on retrouve. C'est le compagnon idéal pour ces moments ensoleillés, pour des apéritifs et des repas estivaux, pour accompagner des grillades, des barbecues sur un joli magret de canard. En l'occurrence, ça peut être très très bien avec une petite sauce à l'orange par exemple, une réduction jus d'orange. Voilà, ça reste vraiment très plaisant.
Et on prend la direction cette fois du Portugal. On a un peu moins l'habitude de découvrir ces vins portugais, notamment sur des rosés, mais là tu nous as fait une très belle sélection pour un vin que je ne connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous le présenter?
Alors déjà, c'est un vin issu de la région viticole de Douro, élaboré par un domaine familial qui s'appelle Marta. C'est un vin issu de cépages Touriga National et Touriga Franca en assemblage sur un joli millésime 2023. C'est un vin qui présente un profil fruité sur des notes de fruits rouges hein, qu'on retrouve notamment dans plusieurs rosés, avec cette petite pointe d'agrumes qui apporte beaucoup de peps au niveau de la bouche. C'est un vin qui présente quand même une structure assez robuste, qui peut très bien pallier et s'accorder avec, par exemple, un petit porcelet à la broche, hein, qui est très apprécié au Portugal. Et pourquoi pas aussi accompagner avec un fromage qu'on nomme, qui est très connu au Portugal, qui s'appelle le queijo de azeitão, un fromage artisanal doux, légèrement pimenté, et qui, par rapport au caractère de ce vin, peut très bien se marier.
Ce rosé de chez Zunnenhoffmann, ce Côte de Provence, ou encore même ce bandol et ce rosé, à quelle température est-ce qu'on va les déguster? On va les déguster tous les quatre à la même température, je pense, tout de même.
Bah, oui, je dirais pour les vins rosés qu'on a présentés, entre 8 et 10 degrés pour qu'ils puissent être appréciés pleinement. Pour le bandol, étant donné que c'est un vin de gastronomie, peut-être un peu, on va dire, aux alentours plus de 10 que de 8, parce que c'est un vin rosé de gastronomie, et je pense que pour au niveau de l'expression, il mérite d'être servi un peu plus chaud.
L'idéal, c'est déjà donc de le servir dans le verre, hein, pour sort du réfrigérateur, parce que souvent un réfrigérateur, on va être à 3-4 degrés, donc on le met d'abord dans le verre, et puis avec un petit saut de glace, comme ça.
Tout à fait, à proximité, voilà, pour pouvoir
conserver la fraîcheur.
Tout à fait.
On passe au vin rouge, une sélection de deux vins rouges à l'occasion de cet été. Très belle bouteille, hein, très, très jolie bleue. On rappelle un petit peu la mer presque.
Là, c'est un joli Bardolino, Tenuta la Presa, le domaine viticole, sur un joli millésime 2020. Alors, c'est un vin issu de cépages Rondinella, Corvina et Molinara. C'est un vin de la région viticole de Vénétie, pour ceux qui ne connaîtraient pas. L'avantage de ce vin, c'est que c'est un vin rouge qui est léger et qui passe vraiment bien à des températures légèrement fraîches, aux alentours de 14 à 16 degrés au niveau de la dégustation. Alors, c'est un vin qui présente une belle robe rouge rubis sur des arômes délicats de petits fruits rouges tels que la cerise, la framboise. On y retrouve notamment un peu de fraise et une petite touche subtile de violette aussi, qui reste vraiment, à mon goût, très plaisante. Comme je l'ai évoqué précédemment, il se boit légèrement frais. On a un bel équilibre au niveau des saveurs, avec une structure tannique qui reste vraiment souple. C'est un vin qui est en harmonie parfaite au niveau de la bouche, qui reste vraiment très, très rond, très, très accessible, avec une belle texture vraiment très soyeuse et veloutée, voire même. Ça reste vraiment un très, 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 très joli vin. Au niveau de la dégustation, au niveau des plats, je le recommanderais vivement avec, par exemple, des plats de pâtes, des pizzas, si vous êtes amateur de pizza. Et pourquoi pas sur des plateaux de charcuterie, à l'italienne.
Ouais, charcuterie, fromage, hein, voilà, ça marche très bien. Les fromages italiens, en général, s'accommodent très bien avec ces vins italiens, puisqu'on retrouve des fromages qui ont cette particularité, d'avoir une certaine salaison, parfois, qui ressort bien avec ce vin rouge. Et donc, on referme tout doucement cette sélection d'été avec un vin rouge. C'est bien parce que je les découvre en fait en même temps, et je suis en train de me dire que ce producteur que tu as choisi est l'un des meilleurs producteurs aussi de vin rouge. Alors évidemment, il fait du blanc, hein, au Luxembourg, mais il est déjà connu pour son vin rouge, l'Elyséeum en l'occurrence.
Tout à fait. Hein, alors,
c'est la maison,
Schumacher-Knepp, sur la commune de Vintrange. C'est un vigneron que j'apprécie particulièrement, hein, avec qui je travaille depuis quelques années, hein, maintenant. Et bien sûr, comme tu l'as évoqué, son vin rouge et Elysium, qui est issu de l'assemblage Pinotage et Merlot, qui a été élu meilleur vin, si je ne me trompe pas, en 2019, et qui a un savoir-faire vraiment impressionnant au niveau des vins rouges. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un autre vin, atypique pour ma part, qui se nomme Lyra, qui est un assemblage de Pinot Noir et de Saint-Laurent. Au niveau de l'assemblage, c'est 50 et 50, c'est-à-dire 50% de Pinot Noir et de Saint-Laurent. Je trouve que c'est un vin vraiment très léger, élégant, avec beaucoup de finesse au niveau de la bouche. On retrouve un bel équilibre au niveau des saveurs, avec ces notes de cerise rouge, de framboise, avec une petite touche légèrement épicée. Et c'est un vin qu'on pourrait facilement accommoder avec de la volaille, du veau et des fromages frais tels que fromage de chèvre.
Cette étiquette est tout simplement magnifique, elle a quelque chose de vraiment de prestigieux. Et là encore, on n'a pas de collerette, hein. Il y a un choix qui a été fait de la part du producteur.
Oui. c'est vraiment
avec un joli ruban.
Ruban à coller sur le goulot de la bouteille pour mettre vraiment en avant cette cuvée qui est vraiment au niveau visuel très agréable et très élégante.
Tes clients sont sensibles comme ça à une bouteille esthétiquement, on peut dire presque parfaite comme ça en rayon lorsque...
Bien sûr, ouais. C'est un rôle primordial je pense au niveau du choix et de la présentation et qui bien sûr peut porter le client à choisir cette bouteille en comparaison avec une autre éventuellement.
En tout cas, merci beaucoup Zoran. On a donc présenté cette dernière sélection de vins d'été ici sur la route des vins du Luxembourg avec des vins luxembourgeois certes, mais aussi des vins de l'étranger ou même du sud de la France hein, pour voyager, prendre du soleil, prendre de l'iode, tout ce qui est très bon pour attaquer un futur automne qui est une période quand même décisive pour le vin, en espérant qu'elle saura nous ravir au niveau des papilles. Merci beaucoup pour ton accueil Zoran Matic. J'en profite tiens d'ailleurs aussi pour remercier tous les vignerons et sommeliers hein, qui nous accueillent dans le cadre de cette route des vins, parce que c'est du travail, hein, faut le rappeler. Ce sont des dégustations, des préparations. On essaye de se creuser la tête pour proposer aussi les meilleurs accords mets et vins possibles. Pour conclure ce podcast, le vin, c'est une vraie passion. On compte pas ses heures. On y va à fond, on réfléchit pas.
Ben, c'est un travail de tous les jours, hein, Mathieu. Un investissement personnel qui est vraiment, vraiment très conséquent pour ma part, parce que préparer des dégustations, préparer dans le cadre d'événements ou recevoir des gens ou pour préparer des masterclass, c'est des heures et des heures de travail. C'est un travail qu'on ne voit pas forcément comme ça, mais qu'on ressent à travers les diverses présentations qu'on peut effectuer dans notre travail au quotidien.
Et souvent les clients, en tout cas les personnes qui dégustent, repartent avec le sourire et c'est bien là le plus important.
Oui, c'est vrai. C'est pour ma part une satisfaction, une de mes plus grandes satisfactions quand je peux répondre aux attentes et exigences du client et en plus avec le sourire, à la fin, ben voilà, j'en suis comblé.
Merci beaucoup Zoran Matic en tout cas de nous apporter tant de bonheur et tant d'instructions aussi dans le domaine des vins. À très bientôt j'espère.
Merci Mathieu, merci beaucoup, merci à toi. Au revoir.
La route des vins du Luxembourg.